Melting Pot sur BXFM.
Vous êtes sur BXFM, le Melting Pot sur le 104.3 FM, BXFM.be. Nous sommes mardi aujourd'hui en compagnie d'Evin Guzzi et son invité aujourd'hui.
Oui, mon invité c'est Charlie Delwart pour son roman Chut, paru au Seuil. Et bon, c'est un peu paradoxal, mais on va parler de Chut aujourd'hui. Donc Charlie Delwart, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes né à Bruxelles, donc vous êtes évidemment à Paris et je vous parle de Bruxelles, ce qui crée ce son un peu particulier. Nos auditeurs s'en sont certainement rendus compte. Vous êtes né à Bruxelles en 75, vous vivez actuellement à Paris.
Je suis entre Bruxelles et Paris.
Vous vivez entre les deux, mais aujourd'hui vous êtes là-bas et moi je suis ici. Voilà, ça nous sépare. Vous êtes l'auteur de trois livres, dont Citoyen Parc, que j'ai lu. Et qui décrit de façon saisissante une dictature, celle de la Corée du Nord, et dresse finalement la biographie romancée de son dirigeant. Et on retrouve finalement cet ancrage dans la réalité politique, dans votre dernier roman, Chut, qui se passe dans la Grèce d'aujourd'hui. Alors pourquoi la Grèce ?
Et en fait, ce qui m'a fait partir sur la Grèce, c'était le fait d'avoir vu les murs d'Athènes recouverts de tags et d'inscriptions. Alors que j'étais parti sur un personnage d'une jeune fille de 14 ans qui avait arrêté de parler, et quand j'ai vu ces images de la Grèce, ça me semblait évident, en fait, tout d'un coup, c'est là que ça devait s'ancrer, parler de la crise et de voir comment cette crise travaillait son imaginaire d'adolescente, elle dont tout se déconstruit dans sa vie familiale et dans son pays. Et puis, ça me semblait un territoire qui n'était pas investi par la fiction, en fait, la Grèce et ce qui avait lieu, la crise. Donc le roman se base, lui, entre 2011 et 2012, qui est une année assez tournant dans la crise, car c'est le moment où les gens commencent à baisser les bras, où la crise, ça fait plusieurs années, donc d'un coup ça commence à plomber la population. Et moi ça m'intéressait, voilà, de montrer comment une jeune héroïne avec des mots...
Citoyenne. Ou sans mots, puisqu'elle se tait, oui.
Et voilà, qui décide de s'impliquer à sa manière, d'essayer d'utiliser les mots pour les autres.
C'est ça. Et alors, finalement, moi, j'ai envie de vous demander, la réalité en Grèce est presque surréaliste, et donc créer une fiction là autour, qu'est-ce que ça apporte au réel ? Pourquoi avoir choisi la fiction pour parler de tout ça ?
Mais parce qu'en fait, d'abord, c'est une fiction, mais qui est vraiment nourrie de réalité, c'est-à-dire que ça se passe sur un an avec les faits qui ont eu lieu dans le pays à ce moment-là. Les tags qui sont repris dans le livre, hors les siens qu'elle crée, sont ceux qui sont sur les murs d'Athènes. Moi, je suis parti plusieurs jours photographier des tags, les faire traduire et comprendre les différentes strates qu'il y avait. Et pour moi, la fiction là-dedans, elle permet de retranscrire en fait ce qui se passe, dans l'Europe. Et ça nous paraît souvent loin, alors que c'est vraiment...
C'est à côté, oui.
Et c'est ce qui se passe aussi, de manière latente au Portugal, en Espagne. Donc pour moi, c'est important que la fiction investisse ce territoire-là et parle de ce pays aujourd'hui, de ce qui a lieu en Europe maintenant.
Oui, et qui nous permet finalement vraiment de comprendre et de mieux rentrer dans la psychologie des gens qui vivent une situation qui est tout à fait inédite pour nous. Enfin, on espère qu'il ne le sera pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment dramatique sur le plan économique. Alors moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappée, c'est que votre héroïne, Dimitra, ne ressemble pas vraiment aux jeunes filles de son âge. Et avant de se taire, de décider de ce silence, elle a expérimenté une sorte d'impasse dans la communication. Et alors, on va découvrir petit à petit que sa vie, en plus, est profondément altérée par la crise. J'avais envie que vous me parliez un petit peu de cette impasse dans la communication.
C'est-à-dire qu'elle était à un moment où elle change d'école, elle a déménagé justement pour des raisons économiques et se retrouve dans un groupe de filles de son âge où elle partage leurs journaux intimes et se rend compte en fait qu'elle ne pense pas comme elle, comme les autres filles du groupe, et elle se rend compte que le mieux pour elle en fait est à un moment où c'est peut-être mieux de se taire en fait. C'est parti d'une théorie qui dit que chaque particule d'énergie qu'on ne dit pas est une particule qu'on garde pour soi. À un moment où elle en a besoin, cette énergie-là. Et donc, et la communication aussi par rapport à ses parents, voilà, il y a un moment où elle se retrouve dans une forme d'impasse où pour elle, en fait, le mieux, c'est de se concentrer sur elle et sur les mots écrits. Et des mots écrits de manière anonyme aussi, comme le sont tous les tags dans la ville, pour essayer de rentrer à la fois, de mieux se comprendre elle et de mieux rentrer en communication avec les habitants qui partagent cette crise globale.
Ok, mais on va reparler de tout ça après une petite pause musicale.
Très bien, Aveline, restez avec nous sur BXFM avec le Melting Pot 3xw.bxfm.be, le 104.3 FM à Bruxelles. C'est BXFM et toujours le Melting Pot avec Charlie Delwart au téléphone, avec toujours en compagnie d'Evelyne Guzzi en studio.
Oui, pour le roman de Charlie Delwart, paru aux éditions du Seuil de Chut. Donc c'est H-U-T, hein, vous l'avez bien compris. Alors, donc le roman finalement se déroule dans une sorte d'atmosphère un peu paradoxale. Qui évoque à la fois une fin de monde, une désillusion, et en même temps une grande mobilisation qui semble prélude l'inquiétude d'un monde nouveau. Alors, le frère de Dimitra décide de poursuivre sa vie à l'étranger, elle de couvrir les murs de slogans. Et je me suis demandé, finalement, quel choix offre aux jeunes actuellement un pays comme la Grèce, ou ça pourrait très bien être l'Espagne d'ailleurs, qui est au fond d'un certain gouffre économique. Comment un jeune peut s'en sortir là-dedans et comment s'en sort Dimitra ?
Elle aussi est à un âge, elle a que 14 ans, donc elle n'est pas encore non plus confrontée aux questions de l'emploi, qui quand même touche énormément les jeunes. Mais sa position à elle, c'est de se dire que de toute façon, il y a un monde à reconstruire. Le monde qu'on leur livre là en crise, c'est un monde passé, ou en tout cas c'est un monde dont eux n'ont pas créé les conditions actuelles, et que de toute façon ils n'ont pas le choix que de reconstruire en fait. Donc c'est vrai que ça se passe sur une vision un peu il y a un côté fin du monde, mais avec l'idée pour elle que de toute façon il y a un monde à construire derrière. Donc de toute façon il n'y a pas d'autre choix que la croyance.
Donc il n'y a pas de renoncement de sa part, contrairement effectivement à son frère qui doit maintenant gagner sa vie, partir ailleurs pour construire.
Oui, c'est une philosophie qui est de se dire on n'est pas lié à là où on est, et que lui on voit l'opportunisme immédiat et partir de la Grèce. Donc alors qu'elle estime que sa conscience citoyenne fait que dans un pays en crise, elle doit jouer son rôle et elle le fait à sa manière, mais qui est une manière aussi assez naïve en fait, parce que naïve et utile, elle peut pas savoir, ce sont des graves dans la ville, laissées comme ça, donc elle peut jamais savoir quelle réaction ça peut provoquer chez les gens. Elle estime ou elle espère que ça se mêle à un renouveau, qui d'ailleurs un renouveau qui a eu lieu quand même dans la prise de conscience de la population, qu'à un moment ils sont un peu abandonnés à eux-mêmes, c'est eux qui doivent trouver des solutions. Donc sont nées pas mal d'initiatives de solidarité, de coopératives agricoles, de partage de compétences, de monnaies alternatives, et tout ça fait partie d'un renouveau dont elle veut faire partie, en tout cas là-bas à Athènes.
Alors ce qui frappe également, c'est qu'elle décide de se taire, les autres parlent autour d'elle, ils parlent mais ils testent quand même certaines choses, il y a tout un univers de tabous qui se met en place avec la crise, par exemple sa petite famille, elle renonce à des tas de choses, au club de natation, aux vacances, à la voiture, mais on n'en parle pas. Et dans le cadre clos de la maison, finalement, tout est tu, mais dans la rue, tout s'exprime sur des murs. Donc, les tabous, finalement, ressortent sous forme de l'écrit. J'ai trouvé ça intéressant, finalement. C'est paradoxal, non ?
Je ne sais pas si c'est tant des tabous qu'une situation de fait que tout le monde accepte, en fait. Ils savent qu'il n'y a rien à dire là-dessus. C'est moins ça que le fait de pas vouloir l'aborder. Après ça, ce qui est étonnant dans tous ces tags sur les murs d'Athènes, c'est que tous les gens qui ne taguaient pas avant ou qui n'écrivaient pas sur les murs, se sont mis à le faire. Moi, je disais ça en lisant des articles, des témoignages, en parlant des gens. C'est-à-dire que, il y avait l'histoire que j'ai repris dans le livre d'un dentiste qui, d'un coup, ne faisait pas du tout ça avant, qui s'est acheté des bombes de peinture. À chaque fois qu'il rentrait ou qu'il allait au boulot, il taguait sur les murs. De la même manière que plein de gens qui ne participaient pas à des manifestations, quand il y a eu les indignés, en tout cas, donc, qui sont partis de la Puerta del Sol à Madrid, mais qui ont eu leur pendant en Grèce, beaucoup de gens se sont mis à manifester qui ne manifestaient pas avant.
Tout à fait.
Il y a eu,
oui,
par exemple, pour Tsipras, une manifestation de soutien au gouvernement de la part des Grecs. Il y a une conscience collective et une expression collective qui s'est clairement mise en place.
Très bien, mais on va continuer à parler de ça après une deuxième pause musicale.
Restez avec nous sur BXFM, c'est toujours le Melting Pot avec Evelyne Guzzi aujourd'hui. Retour sur la radio bruxelloise et européenne après une petite pause musicale. On revient avec Evelyne Guzzi, notre invitée par téléphone.
Oui, tout à fait, notre invitée qui est Charlie Delwart pour son roman Chut qui est paru au Seuil. Donc je suis un peu troublée parce que j'entends une musique en fond, donc voilà. Moi je me suis aussi, j'ai pas pu m'empêcher finalement de mettre en relation ce livre avec le précédent qui est Citoyen Part, qui est un livre qui nous parle d'une dictature où le slogan tient aussi une certaine place. Qui n'est pas du tout le même que la place que tiennent les slogans sur les murs d'Athènes. Et j'avais envie de vous faire parler de ce parallèle.
Non, mais c'est vrai que la différence, c'est que dans Citoyen Park, c'est vraiment la vie romancée de Kim Jong-il, et qui a utilisé tous les moyens à sa disposition, et les slogans en étaient un, entre autres, entre les opéras, toute la fiction. Il s'est construit un monde fictionnel pour que la population adhère à son rôle de dirigeant dans un pays qui allait mal. Et les slogans étaient clairement quelque chose qui devait motiver une population qui voyait un décalage fort entre ce qui était marqué sur les murs et ce qui était marqué. La différence, c'est qu'il le faisait pour lui. Dans Chute, elle met les mots pour les autres, Et c'est une. Et voilà, mais moi j'aime beaucoup la forme brève des slogans et tant dans un niveau que ce soit la rue et l'expression spontanée que dans des travaux artistiques et dont l'héroïne s'inspire dans Chute que des travaux de Jenny Holzer qui est une artiste américaine que j'aime beaucoup qui écrit des phrases et des projets en grand sur des murs, sur des bancs, sur des panneaux d'aéroport. Et j'aime bien l'idée que d'un coup l'écrit s'immisce dans le quotidien et de manière imprévue et impacte ou enfin et cherche en tout cas à s'inscrire dans le cerveau des gens, en fait. Que d'un coup, on est happé par une phrase et d'un coup, on revoit les minutes d'après différemment. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime travailler de la même manière que le rapport à la fiction qui était aussi dans Citoyen Park et que j'avais mis avant dans un livre qui s'appelait Circuit, qui était mon premier. Voilà, le travail sur les slogans et sur la fiction m'intéresse. De manière générale, quoi.
Oui, on le sent vraiment. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que bon, ce silence va finalement permettre à Dimitra d'aller autrement vers d'autres. Par exemple, elle va regarder la télé en coupant le son pour percevoir les émotions de chacun. Et je me suis demandé si en filigrane, nous ne parlions pas trop dans la vie pour pouvoir vraiment nous entendre.
Mais c'est un silence qui n'empêche pas, pour comprendre, qui n'empêche pas de communiquer. En fait, elle a un cahier qui lui permet de parler avec son père, sa mère, son frère, sa sœur. C'est juste qu'elle décide de ne plus parler. Donc forcément, ça l'isole. Mais oui, en tout cas, c'est le conseil qu'elle fait pour elle, que de se dire que peut-être tout n'est pas utile à dire à ce moment-là et qu'il y a une série de mots qui peuvent être évités et que c'est autant de temps qu'elle garde pour elle ou pour réfléchir et pour aller peut-être à ce qu'elle considère, elle, comme plus essentiel à ce moment-là.
Alors, finalement, l'effervescence créative qu'on sent dans le livre, ça fait un peu penser à mai 68, d'ailleurs, auquel s'intéresse l'héroïne. Quel est le rapport pour vous entre ces deux situations ?
Dans toute situation de crise, il y a l'expression spontanée qui passe aussi, voilà, et des slogans et l'écriture est forcément quelque chose de très immédiat et très accessible, en fait. Ça se fait dans la spontanéité, dans l'urgence de dire. C'est aussi une urgence, en fait. Et dans les situations de crise, il faut à la fois communiquer et montrer, comme ça s'est passé Place Tahrir en Égypte, et comme ça se passe aussi, il y a d'autres endroits où les murs se taguent de plus en plus avec la crise. Enfin bon, Tahrir c'est différent, mais c'est le fait de partager ensemble un moment historique où la population doit être monopolisée.
Eh bien voilà. Oui, voilà, donc on parle du livre de Charlie Delwarch, c'est lui que vous venez d'entendre, c'est publié aux éditions du Seuil, et je le recommande vraiment à vous tous, nos auditeurs. C'est vraiment un livre sur la pulsion de vie d'une adolescente qui se passe par le partage de l'écrit. C'est un message d'espoir dans des circonstances très sombres, et c'est aussi, en filigrane, au-delà de ça, une véritable réflexion sur le langage et le silence qui, quelque part, est une sorte de langage. Alors, vous pouvez retrouver cette émission et puis toutes celles qui l'ont précédée sur mon site www.evelyneguzy.be. Je souhaite à tout le monde de bonnes vacances, pleines de bonnes lectures, de bons auteurs, si possible belges.
Merci Evelyne, merci à notre invité aujourd'hui et bonnes vacances. Et merci encore et à très vite encore. Et restez bien sur BXFM. On termine le Melting Pot aujourd'hui et on se retrouve demain. Ciao, ciao.